La suite dans les idées, Sylvain Baume. Il y a quelques jours, le Père Noël est passé. Il a, comme de coutume, apporté des cadeaux aux enfants. Et si l'on en croit Claude Lévi-Strauss, ces cadeaux sont venus récompenser le rôle de médiateur que jouent ces enfants entre les adultes et les morts. En continuant de croire au Père Noël, autrement dit, de rester des enfants, ils reculent leur entrée dans l'âge adulte et, partant, celle de leurs parents vers un âge plus avancé qui les rapproche de la mort. Cette médiation mérite rétribution, d'où les cadeaux de Noël, écrit l'anthropologue Emmanuel Devaux, commentant Le Père Noël supplicié, ce texte fameux de Lévi-Strauss qui date de 1952. Un texte qui date précisément dans son ambition anthropologique, cette ambition que tente de mettre à distance et de repenser aujourd'hui Emmanuel Devaux dans un livre exigeant où le comparatisme Amérique-Europe s'avère une féconde méthode. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. L'anthropologue Emmanuel Devaux est donc mon invité pour parler du Père Noël cette saison et d'autres choses, d'explorateur aussi au fond, puisque c'est la thématique de France Culture ces jours-ci. Et dans la deuxième partie de l'émission, il dialoguera avec un autre explorateur photographique, celui-là, Charles Frégé, à qui l'on doit des séries photographiques dont la démarche finalement fait écho à certains égards avec la démarche anthropologique, même s'il s'agit de connaître autrement, avec un appareil photo, des choses parfois très anciennes ou plus récentes, beaucoup plus contemporaines. On s'en parle tout à l'heure avec Charles Frégé. Bonjour Emmanuel Devaux.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous avez été directeur scientifique du musée du Quai Branly et vous publiez aux éditions Les Indes Savantes, La parole et la substance, anthropologie comparée de l'Amérique et de l'Europe. Alors ce livre au fond regroupe des textes divers qui s'intéressent à des sujets assez différents les uns des autres, même si on y repère aussi des centres d'intérêt qui perdure au fil du temps, mais surtout, ce livre essaye de penser la manière dont on peut faire de l'anthropologie aujourd'hui, et aujourd'hui, ce n'est plus 1952, date de l'apparition de ce texte de Claude Lévi-Strauss, qui est pour vous un maître intellectuel, mais aussi l'auteur d'une œuvre qui a pu prendre de l'âge d'une certaine façon. Et ce texte sur le Père Noël, j'ai commencé par là parce que cette saison, mais vous y faites clairement référence dans l'envoi, c'est-à-dire la conclusion de votre livre, Emmanuel Devaux.
Oui, j'y fais référence parce que, bien entendu, c'est d'abord un des textes les plus savoureux de Claude Lévi-Strauss, celui que pratiquement tout étudiant devrait lire, s'il ne devait lire qu'un seul texte de Lévi-Strauss. Parce qu'au fond, dans ce texte, il y a l'une des contradictions fondamentales de l'anthropologie et que Lévi-Strauss n'avait pas résolu à cette époque-là. Le texte reste finalement programmatique et qui va en fait engendrer l'ensemble de sa démarche et sur lequel je me suis appuyé et sur lequel aussi je voudrais me démarquer. Au fond, ce que Lévi-Strauss a fait, c'est que au fur et à mesure, à partir des structures élémentaires de la parenté, puis ensuite la pensée sauvage et puis ensuite les mythologiques, il a migré d'une ère culturelle à une autre. Les structures, élémentaires de la parenté, dont je viens d'ailleurs d'écrire la nouvelle préface, s'intéressent pour l'essentiel au pourtour de l'océan Indien. Donc les sociétés mobilisées dans la démonstration appartiennent au pourtour de l'océan Indien. Et à partir du totémisme aujourd'hui et des mythologiques, plus globalement, l'attention de Lévi-Strauss va entièrement se focaliser sur le Nouveau Monde, sur l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Et en fait, contrairement à l'idée reçue, il y a beaucoup d'Amérique du Nord dans les mythologiques. La moitié des textes, font référence à l'Amérique du Nord. Les grandes admirations de Lévi-Strauss, c'est la côte nord-ouest, notamment, sur laquelle il consacre beaucoup.
On reviendra sur ce Père Noël supplicié et sur les problèmes qu'il pose aujourd'hui. Mais justement, restons en Amérique du Nord parce que oui, c'est votre terrain. Moi, j'aimerais vous demander comment ça s'est passé. On sait que pour un anthropologue, c'est extrêmement important, un terrain. On y passe du temps et donc le choix de son terrain, c'est quelque chose qui marque une vie entière de chercheur. Même si on peut par la suite s'en éloigner ou procéder à des comparaisons, comme vous le faites là. Mais on sent bien que l'Amérique du Nord, pour vous, et certains territoires en particulier, certaines cultures en particulier, sont très très importantes. Comment avez-vous choisi ce terrain ?
Oh, alors là, comme toujours, la scène primitive est une scène qui a un caractère anecdotique. Mais disons que, voilà, j'avais travaillé en Afrique avant. J'étais géographe, en fait. J'avais fait une maîtrise sur l'Afrique. Et en réalité, je lisais des géographes africains. Ils me disaient rien du tout, rien d'inspirant. Donc, je m'étais déjà tourné vers la littérature anthropologique comme qui me paraissait plus substantielle. C'est-à-dire qu'en parallèle, j'avais suivi des études, des cours de philosophie à l'université de Vincennes. Donc, voilà, qui était un creuset à l'époque, quand même, d'intellectualité. Et dans ce contexte-là, je me dis, bah finalement, c'est l'anthropologie qui m'intéresse. J'avais lu Lévi-Strauss à 18 ans, Triste Tropique, mais c'est tout, quoi. C'était une premier contact. Mais c'est après mon terrain en Afrique, je me suis dit, c'est vraiment ça. Il faut aller, c'est la culture qui détermine les choses. Et il faut étudier la culture pour comprendre qu'est-ce qui se passe.
Mais alors, pourquoi les Indiens d'Amérique ?
Alors, pourquoi les Indiens d'Amérique ? D'abord, deux anecdotes. D'abord, en Afrique, il faisait chaud, j'aime pas la chaleur, il y avait des scorpions partout, c'était pas très sympathique. C'était sympathique, mais bon, il y avait... Et puis, voilà, et puis, un désir d'exotisme, quoi. Un vrai désir d'exotisme. Donc, l'Amérique du Nord. Pourquoi l'Amérique du Nord ? Alors là, c'est presque conjoncturel. Tous les jeunes étudiants de ma génération, jeunes anthropologues, se tournaient vers l'Amérique du Sud. L'Amazonie était l'Eldorado, en quelque sorte, de l'anthropologie française à l'époque. Et je parlais pas espagnol, je n'avais pas appris l'espagnol à l'école. Mais je me dis, pourquoi faire comme les autres ? En plus, il faut que j'apprenne l'espagnol ou le portugais. Bon, j'ai pas envie. Je paragouine déjà un peu l'anglais. Bon, voilà. Et donc, grâce à l'intermédiation de Michel Izard, je me retrouve dans le bureau de Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss était dans son fauteuil, une petite chaise. Il nous avait installé dans des grands fauteuils très profonds. Et lui, il se met sur une petite chaise à part. Et je lui demande très timidement, Monsieur Lévi-Strauss, vous pensez qu'on peut faire du terrain en Amérique du Nord ? Et il me regarde, il me dit « Oui, mais ça sera difficile ». Et il me dit « Ça sera difficile parce que les conditions psycho-sociologiques sont très mauvaises, mais il y a encore du terrain à faire en Amérique du Nord ». Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai trouvé des moyens pour partir. Je me suis retrouvé donc dans une réserve au fin fond de l'Ontario, mais très très loin, très au nord. Alors c'est des endroits où on n'accède que par avion. Ouais, là, on est un peu dans la mythologie de l'ethnologie explorante. Mais voilà, on se retrouve... des gens qui ne parlent pas la langue, des gens qui, on fantasme les Indiens à plumes, évidemment, ils portent des jeans qu'on déchirait comme vous et moi.
Là, on est dans quelles années ?
On est à la fin des années 70, début des années 80. J'ai vécu l'élection de Mitterrand dans le Grand Nord. J'en ai eu des échos que quelques jours après. voilà, évidemment, comme tout, les conditions évidemment étaient très mauvaises. Les gens étaient un peu ravagés par l'alcool, la misère, la déstructuration de leur société. Mais justement, ce qui m'a moi vraiment impressionné, c'est que les conditions matérielles avaient changé et se dégradaient évidemment. Mais qu'au fond, les gens restaient profondément eux-mêmes. Les gens continuaient à se marier de la même façon qu'ils se mariaient avant. Les gens continuaient, ils racontaient peut-être pas autant les histoires qu'ils les racontaient avant, mais il y en avait qui les connaissaient encore. Les gens avaient encore cette même attitude par rapport, et c'est pour ça que c'est très important dans ma réflexion. Il y a des choses que j'ai observées à l'époque qui ne font sens que maintenant, dans leur négligence, leur dédain pour les choses matérielles.
Par exemple,
la matérialité du monde. Par exemple, c'est des chasseurs. Bon, des chasseurs, vous allez dire, pour les chasseurs qui vivent de la chasse, le plus important, c'est d'avoir un fusil, quoi. Et un fusil qui marche, quoi. Et eux, ils sortaient de leur canot et balançaient le fusil contre le mur. Ils le laissaient 15 jours là, à la pluie, à l'avant. Ça les intéressait pas.
Ça, c'est mystérieux, donc, pour un anthropologue qui débarque de Paris.
Oui, mais 40 ans plus tard, on comprend que la matière même ne les intéresse pas. Ils sont uniquement du côté de l'immatérialité. Ils sont uniquement du côté de la signification. Et donc, tout ce qui est matériel n'existe pratiquement pas pour eux. chiffres-là. Et ça, ça prend du temps. Et le livre est aussi le résultat de ce très long cheminement.
C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une découverte qu'on fait sur le terrain.
On note
des choses sur le terrain.
Traumatisme. Ces traumatismes vont vous parcourir. Et peu à peu, vous dites « Ah, ben ça y est, je comprends ça. Ah, ben finalement, je comprends ça. » C'est exactement la même chose, par exemple, et je reviens un peu là-dessus, sur la question des relations entre les hommes et les femmes. Elle me paraissait vraiment très contraire, même, non seulement à notre morale, mais disons à notre sens commun, quoi.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous observez de ce point de vue ?
Bah, disons que c'est une société qui était à la fois très très libre, c'est-à-dire que les garçons et les filles se rencontraient, mais ils se rencontraient vraiment trois quatre fois par soir et tout ça. Mais il n'y avait pas du tout cette idée de domination. Il n'y avait pas du tout cette idée de prédation d'un sexe sur l'autre, comme ça peut vraiment être quelque chose qui est très vrai. Très en cours dans notre propre imaginaire, dans notre propre société. Ça semblait être des rencontres entre les garçons et les filles parfaitement équilibrées, parfaitement paritaires. Je veux dire, c'était vraiment la rencontre du sexe masculin et du sexe féminin sur une base exactement égalitaire, paritaire, qui était, même à l'époque, pas du tout, qui n'est toujours pas ce que nous sommes, et qui, a fortiori, à l'époque, l'était encore moins, quoi. Donc, et ça, c'est aussi des choses où on comprend que progressivement, qu'au fond, la relation sexuelle pour les Indiens, ce n'est pas une relation de domination, ce n'est pas même une relation de tendresse ou de partage, c'est un substitut de la parole. C'est une façon de continuer à parler, par d'autres moyens, dans un échange entre soi et les autres, entre soi et les autres.
La parole et la substance, c'est voilà. Précisément le titre que vous avez donné.
Exactement.
À ce livre, pourquoi ?
Ben parce parole. Que c'est l'aboutissement d'une longue réflexion justement sur cette différence fondamentale. C'est qu'au fond, pour les Indiens, les Amérindiens, hein, les autochtones d'Amérique, ce qui compte avant tout, c'est de faire passer un message, c'est de dire quelque chose, dénoncer quelque chose, dénoncer la structure sociale, dénoncer le rituel, dénoncer la différence entre les astres et les entités qui sont en dessous de nous. Et tout ça, c'est des systèmes de sens, de production sémantique à tous les niveaux. Alors que nous, au fond, on est plutôt dans des systèmes d'appropriation des choses, d'appropriation de la terre, d'appropriation du blé qu'on fait pousser, d'appropriation de la richesse, et il faut bien le dire, d'appropriation des individus. Et de ce point de vue-là, l'Occident et l'idée qui est dénoncée aujourd'hui par les féministes en disant que les femmes sont des objets, oui, les femmes sont des objets en Occident. Et elles le sont depuis très très longtemps. Elles sont du côté de la substance, et c'est ça qu'elles cherchent elles-mêmes à mettre en valeur comme étant des objets, de la substance qui va circuler. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient au premier Lévi-Strauss. Le premier Lévi-Strauss avait dit dans les structures élémentaires de la parenté que l'échange matrimonial était, je ne sais pas si vous souvenez de cette leçon, mais c'est une leçon magistrale, c'est qu'au fond, dans l'échange matrimonial, donc je renonce à ma sœur pour recevoir la sœur de mon futur beau-frère, et ce faisant, je crée un lien social. Et ça, c'est le lien social fondamental. Et toute société, selon Lévi-Strauss, est fondée sur cette loi. Il y a l'écho de Rousseau. Hein. Je renonce à un bien particulier pour un bien commun supérieur. Donc tout ça fonctionne très bien. Et Lévi-Strauss le dit clairement. Dans ce système-là, les femmes sont à la fois des personnes et des objets. Les femmes sont des médiatrices et des personnes et des objets. Donc il y a cette dualité profonde de la femme en Occident, qui est à la fois cette médiatrice, donc susceptible de circuler entre les hommes. Mais l'idée qui est la mienne, et c'est qu'au fond, Lévi-Strauss s'est illusionné. Ce système n'est pas universel, il est occidental. Et que justement, chez les Indiens, ça se passe totalement différemment. Il n'y a pas d'appropriation. Une chose qui est très frappante, et je lisais encore quelque chose sur les Moaves récemment, c'est qu'au fond, en Amérique, par exemple, les gens se font la guerre, ils se font perpétuellement la guerre. Donc il y a plusieurs chapitres qui sont entièrement consacrés à cela dans ce livre. Ça soit les Iroquois, les Sioux, c'est des peuples profondément guerriers. Mais, à la différence des Occidentaux et de certaines zones culturelles proches de nous, au fond, lorsqu'ils tuent les gens, mais lorsqu'ils prennent des femmes captives, ils ne les violent pas. Donc il ne s'approprie pas, ce n'est pas la question. La question, c'est éventuellement, à travers un processus d'adoption, de faire rentrer les captifs dans leur propre tribu. Mais ce n'est pas une question de violenter l'autre, c'est une question de violenter la femme de l'autre surtout, justement pour l'humilier. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est un processus totalement différent de relation à l'autre et de captation de l'autre pour le faire entrer dans sa société. Donc les femmes sont, comme chez les Sioux, les meilleures épouses. Les captives deviennent les meilleures épouses. Mais il y a un processus, un rituel pour les transformer en quelque sorte en Sioux.
Alors je voudrais revenir à votre premier terrain, parce que j'imagine que quand vous débarquez là-bas, après avoir demandé son avis à Lévi-Strauss justement, vous êtes pétri de cette théorie anthropologique qui vous fait aller rechercher là-bas un petit élément qui viendra montrer le caractère universel de cette théorie, qui marchera forcément aussi dans ce coin de l'Ontario où vous êtes, comme elle marche en Amérique du Sud où a travaillé Lévi-Strauss, ou en Afrique où travaillent d'autres, ou en Océanie où travaillent d'autres encore, etc., à la même époque. Il vous faut combien de temps pour, en procédant par... méthode comparative, oui, finalement, arriver à comprendre ce que vous venez de nous expliquer. C'est-à-dire que, au fond, il peut y avoir des contrastes saisissants entre les cultures et ce qu'on pensait être des universaux n'était que des illusions d'optique ethnocentrées, enracinées dans notre regard historique, culturel d'occidentaux.
Évidemment, la question est vaste. En fait, je dirais, il me faudra 40 ans, probablement, pour aller jusqu'au bout de ma pensée. Mais disons que très vite sur le terrain, il faut faire un tout petit peu de théorie anthropologique, mais la théorie anthropologique dit que on a des cousins qui sont des cousins croisés. Donc, les cousins croisés sont des cousins qui sont différents des autres. Et en fait, ce sont des cousins avec qui les gens se marient. Parce que potentiellement, ils se marient. Et, ces gens-là avaient des cousins croisés, comme il y en a en Australie, comme il n'y en a pas beaucoup en Afrique, mais qu'il y en a beaucoup dans d'autres parties d'Amérique. Et voilà. Et moi, je leur dis, vous vous mariez avec cousin croisé, puisque c'est la règle, hein, c'est comme ça. Et ils me regardent, ils sont vraiment fâchés, quoi. Ils me disent, tu te fiches de nous, quoi. Nous, on se marie comme chez vous, hein, avec la fille qu'on aime, et puis voilà, quoi. Enfin, bref. À qui on a envie de se marier, quoi. Et ce n'est pas en fonction de... une prescription de mariage, voilà. Ils sont vraiment fâchés qu'on suppose que le mariage soit contraint chez eux. Et effectivement, il n'est pas. C'est-à-dire que le système du cousin croisé tel qu'il existe là-bas est en fait un système dualiste qui divise la société en deux. Donc il y a la moitié de la société qui, effectivement, avec lequel on peut pas se marier, l'autre moitié avec lequel on peut se marier. Mais dans cette autre moitié, on se marie avec qui on veut. Donc le système des cousins croisés explose en quelque sorte. Le système des cousins croisés était à la base de la réflexion de Lévi-Straussien. Oui, il peut être très contraignant. Puis il était à la base de la réflexion Lévi-Straussienne sur l'échange des femmes. Donc en réalité, je m'aperçois que l'échange des femmes, la théorie de l'échange des femmes ne fonctionne pas. Ça, c'est la première étape. Et à partir de là, progressivement, hein, ça décompose en quelque sorte les grands paradigmes de l'anthropologie à cette occasion-là. En revanche, ce qui se confirme dans ce premier terrain, et qui c'est la leçon lévi-straussienne des mythologiques, c'est-à-dire que tous les mythes de l'Amérique, d'un bout à l'autre de l'Amérique, sont en relation les uns avec les autres, sont dans des systèmes de transformation. Systèmes de transformation, c'est-à-dire qu'il y a des polarités à travers l'espace, des inversions.
Vous voulez dire de la Patagonie au Grand Nord dans lequel
Absolument.
Vous étiez.
Absolument. C'est frappant, on retrouve presque le même mythe. Et là, j'avoue que ce qui a été pour moi vraiment décisif, c'est j'étais là sur mon terrain, il se passait pas grand-chose. Et puis un informateur qui était un peu un clown, que j'aimais bien et tout ça, commence à me raconter une histoire spontanément. Alors je lui dis, attends, je vais chercher mon magnétophone. Alors à l'époque, gros UR, les piles, les trucs, la galère, quoi. Bon. Il parle plus, ça l'intéresse plus. Quelques jours plus tard, il revient, c'est lui-même, et il me raconte l'histoire. Et cette histoire, c'est exactement la même, à quelques détails près, bien entendu, quelques inversions près, que celle que racontent les Bororos, l'histoire du dénicheur d'oiseaux, donc celle que racontent les Bororos, qui sert d'ouverture à Lévi-Strauss dans les mythologiques. Alors là, c'était une sorte de révélation, là, pour le coup. Là, j'ai dit, ok, c'est sérieux, ce dont parle Lévi-Strauss, c'est vraiment là. Parce qu'il n'avait pas étudié cette région. C'était une région qui était ethnographiquement encore non documentée. Et donc là, on a pu commencer à faire un montage et à vraiment voir qu'il y avait une performativité du système lévi-straussien des transformations. Et ensuite, dans un autre livre, alors là, ça a pris du temps, une maturation, des lectures étendre les Sioux, la côte nord-ouest, la Californie, par cercle cercles concentriques en quelque sorte. On peut montrer que les systèmes de rituels sont aussi des systèmes d'inversion, comme le système des mythes, et même celui des structures sociales, des nomenclatures de parenté. Voilà, c'est un peu le grand projet qui est derrière tout ça. Donc ça crée une homogénéité très très forte, une homogénéité de l'Amérique sous le régime en quelque sorte de la transformation.
Ce qui vous permet aujourd'hui, dans ce livre, La parole et la substance, de procéder à une comparaison que je dirais générale, au fond, de l'Amérique et de l'Europe. Vous l'écrivez comme ça, parce que au fil des ans, vous êtes amené aussi à réfléchir, à travailler, alors pas de la même manière, pas en faisant du terrain, sur des cas européens. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais votre méthode est une méthode de cas. Vous travaillez sur des études de cas. Ouais. Et alors, comment vous en venez à travailler sur l'Europe de seconde main, souvent à partir d'un regard qui n'est pas tout à fait du même type que celui que vous avez pu exercer sur la société, les sociétés américaines sur lesquelles vous avez travaillé?
Oui, enfin, il y a quand même une analogie. C'est que moi, j'ai vécu avec les Indiens, des Indiens d'un groupe. J'ai partagé la vie, j'ai fait aussi un peu de terrain dans les plaines, mais enfin, on peut vraiment dire qu'il y a vraiment un groupe qui me sert ethnographiquement de référence, et puis après, le reste, sur la côte nord-ouest, j'ai lu Boas, j'ai lu les auteurs, sur les Sioux, j'ai lu aussi, enfin bref, il y a... Bon. Au fond, de l'autre côté, c'est presque la même chose, mais sauf que je suis une sorte de citoyen qui, de ma propre culture, qui s'auto-ethnographie en quelque sorte. Et puis après, je lis des textes.
Alors on trouve notamment ce village des Alpes où vous avez vos habitudes depuis l'enfance et qui vous sert.
Oui, qui me sert
de
aussi
de
village témoin, en quelque sorte, de l'ethnographie. Et c'est tout à fait intéressant, parce que ces paysans que je connais depuis tout petit, je veux dire, ils me racontent des choses sur qu'est-ce que c'est qu'une vache, comment, en fait, pour un paysan savoyard, une vache, c'est une personne. Et c'est très sérieux. Ils vous disent, cette vache, je l'ai gardée. D'abord, elles ont des noms, hein, elles ont des personnalités. Et ils gardent leur vache 15 ans, quoi. Ils vivent, et ils ont 10 vaches. Donc, c'est une sorte d'intimité qui, quand même, presque une... Pas une vie, mais un quart de vie quand même, avec la même personne, c'est une personne. Ils vous expliquent, elles savent très bien ce qu'il faut faire, elles savent très bien à quel moment elles doivent aller se faire traire. Ils vous expliquent que celle-ci, malheureusement, elle tient pas le taureau. Ça veut dire que lorsqu'on insémine, le veau vient pas, donc il va falloir s'en séparer. Ça lui fend le cœur. Il vous le dit vraiment, quoi. Je veux dire, vraiment dans des relations très 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 intimes. Et on parle de ça au jour le jour, presque tous les ans, à chaque fois qu'on se voit. Donc ça me permet aussi quelque part de me rapprocher d'une profondeur ethnographique. Occidentale, qui est peut-être celle plutôt des campagnes que les nôtres, mais enfin qui donne peut-être une certaine profondeur à la réflexion. D'où d'ailleurs les articles qui concernent la tauromachie, le thème du bovin, et puis tous les développements que j'ai faits dans ce livre et dans le précédent d'ailleurs, l'opposition en Occident entre le bovin et l'équin, la figure du bovin, donc la fertilité, la productivité, la figure du cheval comme la figure du pouvoir, mais aussi de la séduction et de l'érotisme. Tout ça prend sens à partir de ces expériences-là.
Oui, alors on trouve notamment effectivement un chapitre sur la tauromachie. Mmh. Et qu'est-ce qui vous intéresse là? C'est l'aspect de la controverse aussi qui naît.
Oui, bien sûr, j'ai l'aspect de la controverse, mais je ne pense pas que c'est une réflexion que je menais déjà avec un collègue qui s'appelle Frédéric Sommade il y a longtemps. Et je ne sais pas tant la question de la controverse que la question d'un phénomène culturel qui est quand même très puissant et qui perdure. Alors, probablement, dans 50 ans, la tauromachie aura disparu, mais elle, c'est quand même un phénomène qui s'est à peu près stabilisé au XVIIIe siècle et qui aura duré 3 siècles dans l'histoire de l'Occident et qui est quand même un phénomène assez extraordinaire, quoi, et qui connaît des variantes, puisque moi je me suis plutôt intéressé là, d'ailleurs, à la variante portugaise, et qui renvoie à cette interrogation qu'on peut avoir de savoir s'il s'agit d'un sacrifice ou pas, et de savoir cette mise en scène extrêmement érotisée en quelque sorte, du rapport entre le bovin et le matador, et qui, dans la version portugaise, c'est ça qui lui donne tout son relief, à mon sens, c'est en fait un centaure, c'est un affrontement entre un cavalier et un taureau.
Ces terrains européens vous amènent aussi à vous intéresser à la pornographie, à la prostitution?
Voilà, donc... Oui, on peut parler de terrain ou de réflexion générale, parce que c'est aussi des...
Moi, je reprends l'expression qui structure l'ethnographie américaine, c'est
oui,
une partie.
Oui, non,
terrain européen, c'est l'autre.
J'assume, ok. Alors donc, mais en fait, oui, la pornographie, la prostitution. La prostitution, c'est plutôt... Moi, la prostitution est un chapitre que je consacre à la prostitution, me paraît intéressant parce qu'elle met en relief, en fait, les avatars du mariage en Occident. C'est-à-dire que la pornographie apparaît toujours comme la limite, en quelque sorte, du mariage. Il doit toujours se comprendre comme le mariage. On le sait, au XIXe siècle, en quelque sorte, il y avait cette espèce de dualité profonde, le double
prostitution,
standard.
Prostitution, mariage, vous voulez
oui,
dire.
Oui, prostitution normale. Pour un homme bourgeois normal, c'était à la fois normal d'être marié et à la fois normal d'aller voir des prostituées. Donc il y a ça. Mais ça remonte très très loin, puisque Paul Venn nous rappelle qu'à l'époque romaine, dans les élégies, on faisait... grande tirade sur la beauté de la femme, l'amour qu'elle inspirait, tout ça, mais cela ne s'appliquait qu'à la prostituée. La femme était totalement tenue à l'écart de ça. Donc c'est un vieux thème, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la prostitution, en fait, en contraste avec le mariage, pour montrer, pour résoudre l'énigme de la dot. Pourquoi au fond contre même finalement la théorie lévi-straussienne, une théorie un peu généralisante du mariage, pourquoi on paye le mari pour recevoir une femme en Occident? Et à mon avis, ça ne peut se comprendre qu'en contraste avec la prostitution, où justement on paye ponctuellement pour une relation sociale, pour une relation sexuelle, la femme. Et là, c'est le contraire en quelque sorte. Non seulement on prend une femme pour toujours à travers le mariage, mais on va payer on va recevoir de l'argent pour se marier avec cette femme. Ce qui est tout à fait paradoxal parce que la dot à l'occidental est unique, pratiquement unique à travers le monde. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était ce rapport d'inversion entre prostitution et mariage plus dot que j'ai essayé de traiter dans ce chapitre.
Alors, deux parties en miroir, en quelque sorte, ces ethnographies américaines, ces terrains européens, et puis au milieu, deux textes de transition, dites-vous, dont l'un consacré à un prix Nobel de littérature, mais un prix Nobel de littérature particulier, puisqu'il s'agit de Bob Dylan. Bob Dylan, dont l'œuvre a été interprétée depuis longtemps comme faisant partie intégrante de la tradition littéraire occidentale, et dont vous montrez, Emmanuel Devaux, avec votre connaissance des cultures natives américaines, qu'en fait, elle doit aussi beaucoup à ces cultures.
Oui, c'est une sorte de divertissement et de parenthèse. Ce texte-là, je l'avais écrit quand même avant, je le reconnais.
Avant le Nobel.
Avant le Nobel. Hein, mais c'est tout à fait étonnant, effectivement. Les critiques en général, Bob Dylan, les influences, c'est la Bible, c'est Keats, c'est la tradition poétique américaine d'ailleurs et anglaise. D'ailleurs, ils font un peu l'impasse sur la tradition française, je crois, qui est aussi très importante chez Bob Dylan. Bob Dylan a beaucoup lu les surréalistes et a beaucoup lu Baudelaire et les autres. Mais indépendamment de ça, il m'a semblé qu'on pouvait encore trouver une autre strate, une strate très enfouie dans la poésie de Dylan, qui, à mon avis, ne trouve de justification, en quelque sorte, qu'en regardant de très près les textes des mythes ou des rites qui sont documentés. Et que Bob Dylan a fréquenté. Alors, ma question que je pose en conclusion, c'est de savoir au fond si Bob Dylan a réussi à intégrer en quelque sorte ces éléments de sa poésie qui ont une racine amérindienne en lisant des textes, ce qui est tout à fait possible, parce que Bob Dylan est un très grand lecteur, et on le sait. Ou bien, est-ce que c'est pas aussi l'influence même de son milieu d'origine, c'est-à-dire le nord du Minnesota, qui est une région en fait où il y a eu un grand métissage depuis très longtemps entre les Indiens et les colons, où il y a une sorte de culture qu'on a appelée d'ailleurs, Richard White, l'historien américain, avait appelé The Middle Ground. Et là, il y avait eu beaucoup d'interactions sur au moins un siècle et demi entre les Algonquins, les Ojibwas, les colons et tout ça. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui est passé, disons,
une forme
par
de
tradition
percolation
locale.
De la culture.
Voilà, avec une percolation et des campements à travers le temps qui peut ressortir chez Bob Dylan. Il y a quelque chose qui est très, très fascinant chez Bob Dylan, c'est au fond l'axe qui l'intéresse, c'est l'axe nord-sud. Il s'intéresse pas du tout à la Californie. Son Amérique, c'est une Amérique qui suit l'axe du Mississippi. Et c'est l'axe le plus métissé, où les histoires sont les plus enfouies, les plus complexes. Donc la culture est la plus retravaillée par la tradition, par le temps, par les interactions.
On peut dire aussi que c'est une colonne vertébrale pour la musique américaine.
Oui, à beaucoup d'égards. De ce point de vue-là, Bob Dylan est un grand patrimonialiste. Il n'a cessé de revisiter sa propre tradition et de la faire vivre.
Alors Bob Dylan, précisément le volume 13 des Bootleg Series est sorti il y a quelques semaines sous ce titre Trouble No More. Il permet de mieux comprendre une période un peu particulière de la discographie de Bob Dylan, celle qu'il l'a vu sortir au tournant des années 70-80, trois albums chrétiens de révélation. Et ça a commencé, parce que ça a vraiment commencé comme ça, par une chanson, un titre qu'il a présenté à son groupe à l'époque, qui a ouvert cette phase, dont ce volume 13 des Bootleg Series nous permet d'avoir une des premières versions live à Londres en 1978, c'est Slow Train Coming. Slow Train Coming, Bob Dylan, au moment où Bob Dylan écume les scènes européennes, Londres en l'occurrence, tournant des années 70-80. Emmanuel Devo est sur son terrain, pas si loin du Minnesota, un peu plus à l'ouest, mais au nord, encore plus au nord dans l'Ontario, pour travailler, on l'a compris, sur les Indiens, sur un certain peuple indien. La parole et la substance, c'est ce livre dont nous parlons depuis le début de la suite dans les idées. Mais en le lisant, ce livre d'Emmanuel Devo, j'ai pensé au travail de Charles Frégé, parce que cette idée de comparer, d'appliquer une manière de prendre en photo des rituels, des carnavals. J'ai pas dit, il y a un chapitre sur le carnaval dans le livre d'Emmanuel Devo. Les carnavals ont été très documentés par Charles Frégé. C'est un de vos objets fétiches, en quelque sorte, si j'ose dire. Charles Frégé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe. Vous travaillez depuis longtemps à produire des séries, je sais pas, peut-on dire documentaires?
Documentaires, d'une certaine façon, mais malgré tout ça, je mets pas les pieds dans les carnavals, finalement. J'arrive toujours à éviter le tumulte des carnavals et à photographier presque sur rendez-vous, quoi.
Alors, il faut dire que le carnaval ne se prête pas vraiment à votre technique photographique qui repose sur l'utilisation d'un matériel assez lourd, d'une chambre photographique. C'est pas vraiment sur le vif qu'on peut prendre des photos comme les vôtres.
Oui, c'est un peu le 19e siècle, quoi. C'est-à-dire, je travaille avec un dispositif qui est contraignant. Je porte ma croix, quoi. Et ça fait qu'effectivement, ça ralentit les choses, ça ralentit le temps. On est dans une relation au modèle qui est plutôt de l'ordre du portrait. On pose, et au lieu de documenter le disons par exemple une mascarade, je vais photographier la silhouette en fait des personnes qui participent à ces festivités.
Alors, vous aviez publié il y a quelque temps un livre qui s'appelle Wildermann sur ces pratiques carnavalesques à Alors là, on parlait d'un bout à l'autre du continent américain, mais là, vous étiez, vous, d'un bout à l'autre du continent européen, du nord de l'Irlande aux confins de la Grèce, jusqu'au Portugal. Enfin, absolument toute l'Europe était concernée par des choses qui sont incroyablement communes.
Sur Wildermann, oui, le constat, c'était d'aller progressivement d'un pays à un autre et de voir que les formes se retrouvaient. Et puis j'ai continué en fait après la sortie du livre. J'y étais encore il y a une quinzaine de jours dans la zone de l'Appenzell et puis aussi un peu dans la Bavière. Mais je me suis arrêté en fait à ce que moi j'appellerais la porte, la limite du chamanisme en fait. C'est-à-dire là où moi, pour moi, il y a quelque chose qui change. Donc après la Roumanie et puis effectivement jusqu'à la frontière turque en Bulgarie et puis jusqu'en Irlande et en Finlande, oui.
Mais est-ce qu'il y a derrière chez vous l'idée de finalement révéler des choses récurrentes? Est-ce que d'une certaine façon vous pensez à votre travail artistique comme ayant une relation forte avec le travail que peut mettre en œuvre un anthropologue?
Ben, pour moi c'est visuel avant tout, donc c'est des formes qui m'intéressent. Le choix des sujets, ça va être totalement instinctif chez moi. C'est-à-dire, je trouve des documents plus ou moins anciens et je me dis ça m'intéresse. Et souvent, c'est la forme qui va me donner envie d'aller à la rencontre et de ramener un peu ces silhouettes comme une collection de papillons.
Mais il y a un travail d'enquête assez important, j'imagine.
Oui, on défriche avant, ça, plusieurs mois ou une année avant une prise de vue, on cherche. Là, actuellement, par exemple, je travaille sur un voyage au Panama et ça fait presque 5 mois qu'on étudie ce que je pourrais y photographier et puis qu'on prend contact avec les groupes ou avec les communautés. Donc, effectivement, il y a une recherche préliminaire qui permet un peu d'identifier avant tout des formes qui, pour moi, sont visuelles et quelque part se raccrochent à une communauté visuelle.
Emmanuel Devaux.
Oui, de ce point de vue-là, il y a vraiment une continuité ou une proximité, je dirais plutôt, avec le travail ethnographique. Hein. C'est la même chose. On essaye de trouver des lieux où on pourrait être accueilli ou des lieux susceptibles de donner lieu, de permettre une enquête. Et puis, au-delà de ça, on dit beaucoup que l'anthropologie, l'ethnographie, évidemment, c'est d'écouter les gens, c'est d'enregistrer les gens et tout, mais c'est aussi de voir, hein. C'est aussi de regarder. La plupart des ethnologues sont des photographes. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont très mauvais, il y en a qui sont très bons, disons-le tout de suite. Mais il y a eu toujours ce rapport très fort entre l'ethnographie et la photographie. Ce qui est en train de changer, et ce qui, moi, je pense, un travail comme le vôtre est intéressant pour rappeler des fondamentaux, c'est qu'avec la caméra, l'image mouvante et tout ça, en fait, on ne regarde plus. On ne regarde qu'à travers
l'œilleton, enfin, en fait, l'écran, voilà, même l'écran du téléphone.
L'ethnographe, cinéaste, ne regarde qu'à travers l'œilleton. Alors que le photographe ou l'ethnographe muni de son appareil photo, il regarde et il dit ça mérite d'être documenté. Ça, c'est le moment de la documentation. Et je crois que ça introduit déjà une démarche analytique. Et je pense que la vôtre aussi, dans ce point de vue-là, c'est-à-dire que vous dessinez des portraits, vous cadrez les choses, en quelque sorte. Vous créez une discontinuité dans la continuité du monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous dites, ah, moi, je vais pas dans les mascarades parce que je fais venir les gens, je les photographie. Et je pense que c'est de la même démarche. C'est-à-dire que vous parlez aussi comme on épingle des papillons. Mais, effectivement, on est dans cette logique de documenter de façon discontinue pour pouvoir, de façon analytique, reconstituer une continuité. Alors que si vous êtes au milieu avec votre caméra, au milieu d'une mascarade, d'un carnaval...
C'est peine perdue.
Vous êtes là, vous voyez pas ce qui se passe, en fait. Vous captez des images, vous captez des flots d'images, mais vous pouvez, à mon avis, peut-être certains peuvent le faire, mais je pense qu'on, de ce point de vue-là, on perd en compréhension, parce que regarder, c'est analyser en même temps.
C'est la supériorité de ce dispositif lourd de la chambre par rapport à ce téléphone portable que désormais on a tous en main, Charles Frégé ?
Je dirais qu'il n'y a pas de supériorité, c'est plutôt... Par exemple, la meilleure documentation possible, par exemple, de ces mascarades, c'est celle faite par certains membres costumés qui vont filmer leur propre mascarade, et parfois même sous le masque. On en voit plein sur YouTube. Pour moi, c'est un fond, une matière intéressante qui me permet ensuite de dire ces gens-là, je veux les représenter. Mais en plus, c'est une matière qui est brute et qui a cette matière brute, elle est plus intéressante que quelqu'un qui viendrait vraiment cadrer, etc. Disons, moi, je pense que quand on va photographier, on fait pas seulement un travail objectif de documentation. Finalement, on parle aussi de soi-même. Et je me dis à chaque fois que je photographie ce qui me ressemble, c'est-à-dire ces personnages, ces silhouettes, quelque part, je m'identifie à ce qu'elle remue en moi, quoi. Donc, c'est pas, je, Quand tout à l'heure on discutait, vous me disiez que vous avez passé 2 ans en Amérique, par exemple. Et moi, je passe 3 heures dans un village. Ma frustration est ce qui fait que je ne me revendiquerai jamais ni ethnologue, ni scientifique. Hein. C'est le fait d'être dans la superficialité. C'est-à-dire, j'apprends ce que j'apprends, je vis avec ce que j'ai photographié à long terme. Et je comprends parfois des années après l'avoir photographié ce sur quoi j'ai travaillé. Mais je n'ai pas ce temps de dialogue et de rencontre qui a l'air fondamental pour un ethnologue. Moi, je le vis après coup comme une espèce de secousse, quoi.
Mais vous avez dit exactement la même chose, Emmanuel oui. Devaux. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous pouvez aujourd'hui écrire dans un livre dense comme La parole et la substance n'a été rendu possible qu'avec toutes ces années. Ce que vous avez vu sur place n'a pas suffi. Il a fallu laisser décanter ce regard au fil du temps.
Et le nourrir de lectures croisées. Hein, quand même.
Et de réflexions théoriques.
Et de réflexions théoriques, mais aussi de lectures. Et c'est ça qui s'est enrichi et qui permet de vraiment, à un certain moment, vraiment se dire, là, je crois que j'ai compris. Et peut-être je peux tourner la page. Mais c'est pas sûr.
Alors Charles Frégé, vous avez sillonné l'Europe pour Wildermann, je ne parle même pas de Yuken Oshima, ce travail sur le Japon qui avait été montré à Arles il y a 2 ans, Rencontre d'Arles. Mais là, vous travaillez sur l'Amérique. Comme on était dans cette comparaison Europe-Amérique, ça vous semble constituer des ensembles très cohérents ?
À l'Amérique, ça devient compliqué parce que là, on parle de l'Amérique des centrales, les Caraïbes, un petit peu l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est pas des entités fermées comme ça. Au contraire, ça a été très poreux. Il y a eu beaucoup de circulation. Donc, c'est moins facile, en fait, de documenter ce projet américain parce que les influences viennent d'un peu de partout, de la culture des natifs, de la culture des esclaves et aussi celle de la colonie.
On est déjà dans le tout monde, pour reprendre l'expression d'Edouard Glissant. Une forme de créolisation ou...
Oui, peut-être une forme de créolisation. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est de trouver des matières et puis de voir comment elles ont évolué et ce qu'elles sont actuellement, parce que c'est un état des lieux là, maintenant. Comment, par exemple, certains groupes vont appeler leur personnage. Par exemple, en Haïti, j'ai photographié un personnage qui s'appelle le Juif errant. Et qui en fait est la silhouette du Saint-Nicolas qui a été importée en fait par la colonie. Et c'est de voir comment les choses se transmettent et comment elles évoluent même actuellement très vite avec le flot numérique, etc. Il y a des influences qui sont très larges. Mais en tout cas, j'essaye de trouver sur un terrain qui part de la Louisiane à l'origine, puisque le projet a démarré en Louisiane, jusqu'au Pérou et au Brésil. Là, on est sur une quinzaine de pays à peu près de recherche, de trouver cette forme qui touche aux mascarades afro-américaines.
Alors ça, c'est votre prochain travail qu'on découvrira dans quelques temps. Charles Frégé, merci. Merci à Emmanuel Devaux.
Merci de m'avoir reçu.
Je rappelle le titre du livre, La parole et la substance anthropologique comparée de l'Amérique et de l'Europe. On mettra sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture, les références bibliographiques de ce livre d'Emmanuel Devaux, des structures élémentaires de Claude Lévi-Strauss, dont vous avez rédigé la préface de cette nouvelle édition. Et puis aussi, on mettra les références des livres de Charles Frégé également, et peut-être quelques photos pour que les auditeurs se fassent une idée de ce travail. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique, Valérie Lavalard, à la réalisation, Olivier Guérin. Dans quelques instants, sur l'antenne de France Culture, vous retrouvez Christine Bernard pour une histoire particulière.